Thibaut, tu sais de quand on date la naissance du cinéma, habituellement?
Date précise, je sais pas, mais c'est moi je dirais fin 19e, les Frères Lumière.
Les Frères Lumière, 1895. Est-ce que tu sais de quand date l'apparition du premier noir, la première personne noire au cinéma?
Aucune idée.
Écoute ça.
Je crois que le premier noir à l'écran, il arrive en 1896
Ah
ou
ouais, un an
90. Ah,
après.
alors, hein, voilà, bon, alors
Attends, écoute la
après,
suite.
évidemment, c'est dans le cadre des noirs que l'on voit à l'exposition coloniale.
Ah oui, d'accord.
Un noir à l'écran, mais pour être encore plus précis, dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque les expositions ethnographiques. Il y en avait par exemple au jardin d'acclimatation.
À Paris.
On a tout notre sujet.
Et oui, notre sujet résumé en une phrase de l'ami Laurent Delmas, critique à France Inter. Le cinéma français est-il trop blanc? On s'est posé cette question avec Thibaut, le rédacteur en chef de Poursuite. Alors qu'en ce mois de février, on parle beaucoup de films, il y a les Oscars à Hollywood et les Césars à la fin du mois. Et régulièrement éclatent des polémiques sur le manque de représentativité de ces cérémonies et du cinéma en général. Cette année, Les Misérables de Ladj-Ly fait partie des favoris. Ce film qui raconte la vie très tendue dans un quartier de Montfermeil. Alors il y a les noms de nouveaux acteurs, de nouveaux réalisateurs qui émergent. Il y a les chiffres, combien de Noirs, de Maghrébins, d'Asiatiques, devant et derrière la caméra. Il y a les histoires que l'on raconte à travers cela. Et puis le débat de société. Est-ce réellement un progrès de juger un film à travers la couleur des peaux qui apparaissent à l'écran? Vous écoutez Poursuite, je m'appelle Bruno Duvic, et comme vous peut-être, Intouchable, ça m'a fait marrer. Thibaut avait contacté l'attachée de presse d'Aïssa Maïga, l'une des rares actrices noires qui ait percé ces 20 dernières années en France. Mais on avait du mal à trouver une date pour l'interview. Et puis un matin, dans le bureau de Poursuite, en écoutant la radio...
L'instant R. Sonia de Villers, sur France Inter.
Et je suis heureuse de recevoir l'actrice Aïssa Maïga. Bonjour Aïssa.
Bonjour. T'entends là?
Alors,
ouais.
Click and Down, c'est le
Elle
titre anglais.
Il faut qu'on la fasse juste à côté, studio.
En français,
tu l'as fait à la sortie du
Je vais aller voir si son attachée de presse est là, si elle peut nous permettre de la voir à la sortie de l'interview.
Ok, bon, on essaye.
Aïssa Maïga s'est fait connaître avec le film Les Poupées Russes de Cédric Clapiche. Producteur Bruno Lévy et Matthew Justice, film dans lequel elle séduisait Romain Duris.
Elle est comment, votre petite amie?
Non, c'est pas pour ma petite amie. Non, mais c'est vrai, c'est pas pour ma petite amie, j'ai pas de petite amie.
D'accord, donc elle est comment, celle qui est pas votre petite amie?
Depuis, elle a multiplié les premiers rôles dans des films grand public ou plus confidentiels. Elle a été nommée au César en 2007, meilleur espoir féminin pour Bamako. Et puis, il y a 2 ans, elle a créé un collectif d'actrices, Noir n'est pas mon métier, qui milite pour un cinéma plus métissé.
Ok.
Puisqu'Aïssa Maïga était à France Inter, Thibault l'a attendu à la sortie du grand studio de l'Instant M et lui a proposé de venir dans notre petit studio.
Je vous ai pris par
pour parler de tout cela.
Par le cou.
Par le collet.
Par le collet.
Allez.
Je vous laisse vous installer. 1, 2, 1, 2. Déjà, qu'est-ce qui a changé depuis Noir n'est pas mon métier?
Ce qui a changé, c'est, je pense, le fait que la parole a été libérée d'une certaine façon, comme sur d'autres sujets. Hein, d'ailleurs, on est vraiment dans cette période formidable, assez bouillonnante autour du droit des femmes et liée également au droit des minorités, à la représentation ethno-raciale en France sur les écrans.
Pourquoi on n'a pas un Denzel Washington en France? Pourquoi on n'a que Omar Sy qui fait le comique, qui joue toujours le rôle du gentil noir finalement, si je...
Alors, ça s'explique par des années et des années et des années de discrimination. Moi, Omar Sy, je trouve que c'est un acteur talentueux, on ne va pas lui reprocher de ne pas être Denzel Washington. Le problème, c'est qu'on est dans une logique de l'exception, dont je fais partie. Je suis une des rares actrices noires en France. Mais j'en connais des centaines. Comment ça se fait? Alors, je ne me remets pas en doute mon talent, peut-être, ou alors mon... Voilà, j'ai pas de problème de légitimité personnelle. Je suis très contente de ce qui m'arrive à titre personnel. Mais à titre personnel, toujours, dès que je me retourne et que je vois qu'il n'y a que des Blancs, alors que dans la réalité, dans le métro, dans les grandes villes en France et de plus en plus dans les campagnes, c'est métissé, je me dis qu'il y a un problème.
Et vous allez voir qu'Aïssa Maïga a des solutions à proposer pour changer les choses. Mais restons sur le constat. Il n'y a pas de statistiques ethniques en France, ou alors très encadrées. Donc on ne sait pas combien d'acteurs, de réalisateurs, de scénaristes, d'assistants sur les plateaux sont maghrébins, blancs, bleus ou jaunes. Pour donner une mesure très partielle et insatisfaisante, les Césars l'année dernière, une trentaine de récompensés, seulement 2 visages
colorées ou métissées. Mais les chiffres, c'est une chose. Ce qui compte aussi, ce sont les rôles, les histoires que l'on raconte. Comment toute une partie de la France et des Français sont-ils présentés, représentés, racontés ou pas sur les écrans? Pour aller plus loin, l'interlocuteur clé se trouvait à Marseille. Thibault l'a appelé.
Allô?
Oui, Régis Dubois?
Oui, oui, c'est moi.
Vous m'entendez bien? C'est Thibault Cavaillès, donc, depuis...
Oui, je suis en train de gérer la technique, parce que du coup, je crois que je suis bon, là.
Et oui, la technique était un peu compliquée. Régis Dubois répondait au téléphone, et en même temps, il s'enregistrait sur son portable. Le son est meilleur. Pour vérifier que tout marchait, Thibault lui a demandé de se présenter.
Ben, je suis enseignant en cinéma, en histoire du cinéma. Et je suis auteur de pas mal d'ouvrages sur le cinéma, notamment sur le cinéma afro-américain et sur les Noirs dans le cinéma français.
Régis Dubois a donc un regard d'historien sur notre question. Il nous a donné quelques repères depuis 40 ans.
Il y a une vraie évolution de la présence noire dans les médias français depuis les années 80, très clairement. Déjà, c'est la deuxième génération des enfants, prenant la marche des beurs, par exemple, pour la question des Maghrébins, mais c'est l'époque de Touche pas à mon pote, c'est l'époque de HIPHOP de Sydney, c'est l'époque aussi de Marius Trésor au foot. Enfin, il y avait une sorte d'engouement aussi pour les Blacks, comme on disait à l'époque, qui était cool. Donc, en fait, très clairement, depuis les années 80, il y a une évolution, mais qui est très lente. Le vrai changement qu'il y a eu, il y a eu plusieurs étapes, en fait, en France. Déjà, en 99, il y a un collectif, le collectif Égalité, qui s'est invité au César pour dénoncer justement le manque de visibilité dans le cinéma français.
C'est un petit appel.
Eh bien, monsieur, bien entendu, moi, je suis...
Laisse-moi à transmettre pour ce 25e anniversaire des Césars. Chers amis de la grande famille du cinéma, pardonnez-nous de nous introduire ainsi devant vous. Il est vrai qu'il est rare de voir à cette place des citoyens issus des minorités visibles. Au nom de 8 ou 10 millions de ces citoyens, nous tenons à vous dire que la situation que nous subissons depuis trop longtemps bafoue toute notion de dignité humaine.
Après, il y a eu les émeutes de 2005. Je ne sais pas si vous vous rappelez, qui ont été quand même assez conséquentes. Et le gouvernement a senti quand même qu'il y avait un gros malaise et a mis en place notamment, via le CNC.
Le CNC, c'est le Centre National de la Cinématographie.
Une aide à la diversité. En 2007, il y a une aide à la diversité qui va favoriser, aider financièrement les productions audiovisuelles qui montrent des minorités, etc., des sujets qui sont en rapport avec ces questions-là. Donc il y a une sorte de discrimination positive. Mais je crois que 2012, en fait, c'est une date importante sur cette question-là. C'est Omar Sy, en fait, qui déjà reçoit le César du meilleur acteur. C'est le premier noir en France à recevoir un César pour un premier rôle. Donc c'est vraiment un événement sur cette question-là. En plus, c'est pour un film intouchable qui a un succès monumental, puisque c'est 20 millions de spectateurs, enfin 19 millions, je ne sais plus, qui se hisse sur le podium des plus grands succès du cinéma français. Je crois qu'il est deuxième après Bienvenue chez les Ch'tis. Et c'est aussi Omar Sy qui devient la personnalité préférée des Français.
Donnez-moi un chocolat.
Intouchable du duo Toledano-Nakache.
Pas de bras, pas de chocolat.
Coproduction Gaumont, TF1.
C'est une vanne, hein.
Quad, Shao Corp et Ten Film.
Non, je déconne.
Ah, c'est une blague.
Ben oui, c'est une blague.
Ah, c'est une blague.
Elle est bien quand même.
Très bonne, c'est une très bonne blague.
C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous. Pas de bras, Philippe.
Voilà, c'est un peu agaçant parce que Intouchable, par exemple, qui a un bon film, une bonne comédie, mais qui est quand même assez insupportable sur les stéréotypes qu'il propose parce que. Omar Sy recycle à la fois c'est un jeune de banlieue, il recycle le stéréotype de la nounou qui est historiquement très marqué, c'est-à-dire celui qui s'occupe du blanc. Et en plus, il a un corps, c'est impressionnant. Alors, les noirs ont toujours eu une fonction de incarner le corps au détriment de l'esprit, en fait. Hein. Le noir, c'est le corps, hein. Le corps sexuel, la force. Vous remarquez quand même que ceux qui réussissent les noirs qui réussissent au cinéma ou dans les médias, c'est soit des comiques, soit des rappeurs. Hein. Soit c'est le noir domestiqué, hein, qui est gentil, c'est Banania, quoi. Soit c'est le noir qui est sauvage, africain, et c'est Joey Starr. Le problème, c'est que quand on étudie en fait, l'image des noirs dans le cinéma, sur 100 ans, on retombe dans les stéréotypes toujours qui sont assez agaçants. Et le problème, c'est qu'en France, ceux qui font les films, ben, c'est des blancs, classe moyenne parisien. Et, voilà, ils parlent de ce qu'ils connaissent et ils parlent mal de ce qu'ils ne connaissent pas.
Au-delà des visages, ce qui manque, ce sont des histoires racontées du point de vue des Français, noirs, antillais, d'origine maghrébine ou autre. Et des histoires positives, des personnages auxquels on pourrait s'identifier. Pourquoi, quand on retrace la vie d'Alexandre Dumas, métis, c'est Gérard Depardieu qui incarne le rôle? Pourquoi le destin de Gaston Monnerville, né à Cayenne, président du Sénat, deuxième personnage de l'État dans les années 60, n'a pas été raconté? Des personnages auxquels s'identifier. Sur ce sujet, il y a une année et un film clé. C'est Eva Bétan, la voix du cinéma dans les journaux de France Inter, qui nous en a parlé.
On fait un essai ?
1, 2, 3.
Le film clé, c'est Indigène, qui raconte le rôle des tirailleurs africains lors de la Seconde Guerre mondiale. Réalisation Rachid Bouchareb, producteur Tessalit Productions, et au casting notamment Jamel Debbouze.
Je prends la grenade, je découpe, je tire, je jette la grenade comme ça sur l'Allemagne. Tous l'Allemagne sont morts. Je libère un pays, c'est mon pays. Même si j'ai jamais vu avant. C'est mon pays.
Le film est présenté à Cannes en 2006. Eva s'en souvient.
Il y a toute l'élite, si tu veux, des acteurs issus de l'immigration. La grande star qui est
Jamel Debbouze,
qui là explose en tant qu'acteur. Ouais. Samine Ouajila, Rush Dizem, Samine Nasseri. Il faut les voir monter les marches. Je fais la première interview. Donc, il y a ce moment magique où quand le film est montré. Le bol, plus comme on veut, fait que je suis la première à arriver. Et Jamel Debbouze, qui est une immense star, on fait l'interview et après il fait « Waouh ! Mais vous vous rendez compte ? On fait une interview pour ce film ! Mais waouh ! Mais attends, on dirait un débutant, mais il est fou de joie que ce soit pour ce film-là. Parce qu'ils y ont mis tout leur cœur. Ce film est important, ils parlent de leur famille, ils sont fiers de ce qui a été fait.
Et nous, les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie.
Ils auront le prix collectif. Le film représentera la France pour l'Oscar du film étranger. Il y aura 3 millions d'entrées.
Et quand succès ça va aux Oscars, succès populaire, oui. Succès dans les festivals.
Et quand ça va aux États-Unis pour l'Oscar du film étranger, ça va en tant que film français. Ouais. Et c'est une page d'histoire de la France. Pour moi, c'est un moment très important.
Et ils ont un rôle positif dans ce film.
Totalement positif. Et ça amènera les politiques à réfléchir sur des lois. Et c'est là où on voit l'influence du cinéma.
Car les anciens combattants de l'Empire français touchaient des retraites bien moins importantes que les autres soldats, le film aura permis de remettre cette question dans le débat sans la régler tout à fait. Mais Eva voulait parler plus en détail d'un des acteurs d'Indigène, Rush Dizem, parce qu'il incarne un progrès récent dans le sujet qui nous intéresse. Lui qui est né dans une famille marocaine, vient d'incarner le président français dans la série Les Sauvages et il fait partie des rares à qui l'on confie des rôles qui vont au-delà de leurs origines. Enfin presque.
Il y a deux films que je trouve intéressants. C'est d'une part le film d'Arnaud Desplechin, Roubaix une lumière, film très récent. Il joue un commissaire. J'avais même oublié le nom du commissaire, je suis allée vérifier. Pour moi, il porte la lumière du film. Il est celui qui dit, même si vous êtes des meurtrières, ces deux meurtrières, vous appartenez à l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a une profondeur extraordinaire du rôle où on se fiche de savoir qui est son père, qui est sa mère, etc. Sauf que quand même, pour l'ancrer dans la réalité, il s'appelle le commissaire Daoud. Donc, on se retrouve toujours avec cette histoire du nom, moi, qui me fascine.
Vous avez une famille ?
Non. Moi, si.
Roubaix, une lumière.
Tout le monde a une famille.
Arnaud Desplechin.
Il doit être fier de vous.
Why Not Production.
Pourquoi ? Vous voir commissaire ? C'est beau.
Mon grand frère habite plus ici et tout le monde est rentré au bled.
Alors, il y a un film qui s'appelle La fille au bracelet, où toujours Rush Dizem
est
le mari de Chiara Mastroianni. Et tout le film est sur leur fille qui a 17 ans, est accusée du meurtre de sa meilleure amie. Et le bracelet, c'est le bracelet qu'elle porte à la cheville parce qu'elle est en liberté avec un bracelet en attendant son procès. Le père, je ne me souviens pas du prénom, très honnêtement. Mais jamais il n'est qualifié d'une quelconque manière par une origine, ni de près ni de loin. Il est le père. Et comment on fait qu'une fille meurtrière ? Et j'aimerais bien qu'il s'appelle Roger, François, Alexandre. J'aimerais bien qu'un jour la question du prénom n'existe plus.
Mais ça signifie qu'avec des gens comme Samy Bouajila, comme Rush Dizem, on a avancé vers cet état de fait qui serait que peu importe qu'un acteur soit d'origine maghrébine ou pas, il peut jouer n'importe quel rôle.
C'est évident. Je pense quand même que la société a incroyablement avancé et que oui, franchement oui. Tu les vois en tant que formidables acteurs, point.
Les acteurs noirs, maghrébins ou autres ne sont pas encore détachés de cette assignation à résidence, à origine. Pour continuer de changer les regards, pour qu'il y ait plus de diversité dans le cinéma français, dans les sociétés de production, dans les chaînes de télévision qui financent en partie les films, quelles mesures prendre ? C'est là qu'on retrouve Aïssa Maïga avec Thibaut, qui lui a posé la question sensible. Est-ce qu'il faut autoriser des statistiques ethniques pour mieux connaître le paysage et prendre des mesures ?
Je pense que c'est très difficile de mener des changements quand on n'a pas tous les outils, et ça doit venir d'en haut. Mais je pense que pour les producteurs, la situation est de plus en plus dure financièrement, et ils ont envie de prendre le moins de risques possible. Et dans leur tête, prendre dans un rôle normal un arabe, un noir ou un asiate, alors qu'ils pourraient avoir un acteur blanc qu'ils pensent être plus fédérateur, c'est un risque. Mais si ça vient d'en haut et qu'on est dans une politique volontariste dans laquelle on dégage aussi des budgets pour ça, et aujourd'hui on a réussi à le faire grâce au collectif 50-50,
ça, c'est pour
sur
les
la
femmes.
Question de l'équilibre homme-femme devant la caméra, derrière la caméra, dans tout le milieu, les milieux qui font le cinéma et bientôt la télé, je pense. Et on voit bien qu'avec ce qu'on appelle un système de bonification, en gros, les productions qui respectent la parité homme-femme, quand elles accèdent à un financement du CNC, obtiennent un bonus de 15% de ce financement. Est-ce que c'est compliqué d'appliquer cette logique avec des castings mélangés ? Et pas simplement du point de vue de la race, pas simplement du point de vue du genre, mais aussi du point de vue du handicap. Et peut-être qu'un système qui permettrait aux productions d'avoir un peu plus d'argent, si elles mettaient donc en application cette représentation de la société dans leurs équipes, et aussi à travers des choix qui peuvent être des choix éditoriaux, des films d'époque par exemple, ou des films qui ont des sujets liés à la diversité aujourd'hui. Ça, c'est pas compliqué de se dire, on va prendre des projets historiques et des projets dont le sujet même parle de la diversité, que ce soit des comédies, des drames, etc. Ça, ça peut être un filtre. Et on peut regarder autour de nous ce qui se fait. Au Danemark, les directeurs de casting se sont rendus compte qu'il n'y avait pas une représentation juste de la société danoise dans leur fiction. Il y a des stats ethniques là-bas qui disent qu'il y a 10% de la population qui n'est pas danoise blanche. Il n'y avait pas assez d'acteurs dans les écoles. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Du porte-à-porte. Et ils ont proposé à ces acteurs nouveaux de les former. Et ensuite, ils ont passé des castings et ils ont été intégrés dans des rôles parfois très importants au sein des séries.
Une logique de discrimination positive, au fond. La FEMIS, la grande école de cinéma, l'a adoptée en partie depuis une dizaine d'années avec son programme « Égalité des chances ». Ce sont des ateliers de préparation au concours pour des candidats boursiers ou venus de l'éducation prioritaire. En 11 ans, une petite vingtaine de candidats ont pu intégrer la FEMIS. C'est peu, mais leur taux de réussite est supérieur à celui des candidats classiques. Autre initiative, France Télévisions s'est engagée aux dernières assises pour la diversité dans le cinéma à mettre en place une clause de diversité dans toutes ses productions. On ne parle pas de quotas, mais on n'en est pas loin. Et voilà la question qui fâche. Au nom de la lutte pour une meilleure représentation des minorités, peut-on contraindre des artistes à modifier leur scénario, leur casting, leur écriture ? C'est là qu'arrive le quatrième personnage de notre histoire.
Bonjour Bruno.
Laurent Delmas, celui qu'on a entendu au tout début parler du premier noir dans le cinéma français dès 1896. Avec Christine Masson, Laurent présente l'émission de cinéma de France Inter. On aura tout vu. C'est un puits de culture. Avec lui, quand on fait les tests micro avant l'interview, c'est un poème, une chanson qui surgit.
Oui, un essai de voix dans Paris des Républiques. L'accordéon nostalgique a semé bien des musiques, dont il reste des échos dans mon cœur. Il y a des rengaines dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine, du Bruant ou du Carco.
Ah, c'est merveilleux. C'est quoi ? Je connais pas.
Et c'est Paris jadis, c'est la chanson des enfants gâtés de Bertrand Tavernier qui est chantée par Jean-Pierre Mariel et Jean Rochefort.
Alors le cinéma français est-il trop blanc ? Et jusqu'où mener une politique contraignante ? Pour répondre, Laurent attire le regard vers un personnage clé.
Il y a quand même des gens qui sont au centre des films et qui s'appellent les réalisateurs, qui décident de cela. Enfin, quand même.
Donc, les bonnes personnes à qui poser cette question, de votre point de vue, c'est aux réalisateurs. Ben, pourquoi le cinéma est-il si blanc ?
Ben, en grande partie, oui. À condition, bien entendu, qu'il ne s'agisse pas de dire il faut des rôles. Par exemple, pour moi, j'ai entendu dire ça, et ça, ce genre de vocabulaire, je crois que c'est un problème. Il faut des rôles pour les afro-descendants. Vous voyez en quoi c'est les mettre dans une catégorie particulière. Enfin, on ne va pas commencer à dire il faut des rôles pour les bretons descendants. Nous parlons bien d'un domaine artistique. Le cinéma. Nous ne parlons pas d'un domaine politique, c'est-à-dire nous ne parlons pas d'un domaine qui aurait en charge l'évolution des sociétés. Sinon, si on fait des artistes, des sortes de militants politiques pour promouvoir qui l'égalité professionnelle, qui l'égalité entre les hommes et les femmes, qui l'égalité entre les noirs et les blancs, etc., ça n'est plus du cinéma. C'est, au mauvais sens du terme, de la propagande, au bon sens du militantisme ou de la bonne recherche de changement, mais on ne peut pas attribuer à ce point-là aux artistes une sorte de mission, j'allais dire civilisatrice, en tous les cas politique. La parité en politique, l'égalité salariale homme-femme, la lutte contre le CV qui recrute d'entrée de jeu parce qu'il y a une photo, etc. Tout cela, il faut, impérativement. Est-ce que le cinéma doit être la case en plus ? On peut faire la différence entre des questions qu'on posera à la rédaction d'une chaîne de télévision pour ses présentateurs, pour ses journalistes, pour ses animateurs, etc., et faire la distinction avec ce que l'on demandera aux fictions de cette même chaîne.
Et puis peut-être que le mouvement peut s'accélérer sous l'effet du phénomène culturel le plus massif de ces dernières années dans le domaine de la fiction, le développement des séries. Eva Bettan sur ce point.
Elles peuvent accélérer par le fait qu'ils s'en tournent beaucoup, par le fait qu'ils sont contraints d'innover, d'aller chercher d'autres choses, et que les gens les regardent beaucoup. Il y a une grande audace dans les séries. Et l'audace des uns oblige à l'audace des autres. Si tu veux que les gens te suivent sur 10 épisodes, 20 épisodes, etc., t'es condamné à l'audace. Donc, oui, c'est un facteur d'innovation, c'est certain. Et ça rejaillira sur le cinéma et sur le reste, et c'est comme ça.
Extrait de la série Les Sauvages.
Bougnoul, Bougnoul.
Réalisation Bougnoul. Rebecca Zlotowski.
Nakhloufi, Bougnoul.
Production
Sahraoui, Bougnoul.
CPB Film.
Ben Boudaoud, alors la gros Bougnoul.
Et Scarlett Production.
Alors, que des Bougnoul. Non mais sérieux, Doun, t'as invité tous les Arabes de Saint-Etienne au mariage de Slim ou quoi?
Écoute, Arabe, un mariage français, il n'y a que des Français. À nous, c'est normal qu'il y ait que des Arabes. Hein.
C'est Aïda, t'es sérieuse, c'est Aïda la Tunisienne.
Voilà, je suis parti d'une question de société, presque comptable. Combien de Noirs et de Maghrébins dans les films ? Et j'en arrive à m'interroger sur le cinéma lui-même. A-t-il vocation à refléter la société de son époque ou à toucher quelque chose de plus universel ? J'ai demandé à nos deux critiques, Eva Bettan et Laurent Delmas. Ils prennent des détours, mais ils répondent. L'un pour rêver d'un art, cinéma ou théâtre, qui s'affranchit des identités, c'est Laurent.
Dans le théâtre antique, les masques. On ne sait pas qui y a derrière, on ne sait pas la couleur qui y a derrière, on ne sait pas, les masques. Dans le théâtre élisabétain, les femmes qui jouent les hommes qui jouent les femmes, etc. On ne sait pas. Moi, par exemple, quand j'ai vu Maria Cazares jouer le roi Lear, je tombe de ma chaise, enfin, je tombe de ma chaise de plaisir. Parce que je ne vois qu'une personne jouer un grand rôle. Il y a quand même, dans la représentation à la fois théâtral mais aussi cinématographique, c'est de l'art et c'est de l'artifice. Il faut en accepter tous les présupposés, donc accepter aussi que l'art soit porté par des artistes, quelle que soit la couleur de leur peau. Et assigner, en quelque sorte, à résidence, c'est-à-dire à résidence colorée en l'occurrence, blanc ou noir d'ailleurs, c'est le rêve que certains font en matière d'art communautariste ou communautarisé, ça serait dramatique.
L'autre plaide pour un cinéma qui devrait toujours plus refléter son époque et ceux qui l'habitent. C'est Eva.
Ça, c'est il y a, je sais pas, au moins longtemps, hein, ça fait 15 ans de ça, une interview avec Philippe Garrel. Et Philippe Garrel, si tu regardes ses films, les appartements, ils sont toujours un peu pourris. C'est toujours des gens plutôt intello, mais il faudrait vraiment repeindre, quoi. La salle de bain, elle n'est pas terrible. Et il m'avait dit une fois, mais c'est le cinéma français qui est trop bourgeois. Il montre des maisons plus belles que les vraies maisons des gens. Et le cinéma français, il est peut-être plus bourgeois que la société. Ou alors, il va vous te montrer des versions caricaturales,
oui, de la misère,
ou excessives de la misère, mais à quel moment il est en phase vraiment avec la société ? Il l'est peut-être moins. Donc, il y a aussi ce reflet. On ne peut pas demander au cinéma d'être autre chose que l'écho d'une société.
Le cinéma doit-il refléter la société ou toucher à l'universel ? Beau sujet de réflexion pour Spike Lee, premier président noir du jury au prochain Festival de Cannes. C'était Poursuite. Et au fait, Eva rêvait que la question des prénoms ne se pose plus pour les acteurs maghrébins. Elle évoquait le dernier film avec Roche Dizem. Thibaut a vérifié.
Oui, Thibaut.
Le personnage de Roche Dizem dans La fille au bracelet,
oui,
s'appelle Bruno.
Eh bien, tu vois.
Poursuite est un podcast de la rédaction de France Inter.